C'est 23.
Patrick Lagacé en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant en moins de 60 minutes.
Il y a deux semaines exactement, on a fait une entrevue avec Fernando Fortin qui tente de faire venir au Canada sa conjointe et le fils de sa conjointe qui ont fui l'Ukraine après l'invasion du 24 février. Ils se trouvent les deux en Pologne depuis le 3 mars dernier. Et Fernando nous avait raconté à quel point c'était difficile de naviguer dans le complexe labyrinthique de l'immigration canadienne. Ben, demain, il va s'envoler pour la Pologne pour aller leur prêter main forte. Il est au bout du fil. Salut Fernando!
Hey, salut Pat, ça va bien?
Oui, toi, demain, à l'aube de ce voyage-là, comment tu te sens?
Ah, écoute, je suis crevé, moi, je suis bidé, là. J'ai juste hâte d'embarquer dans l'avion, là, puis arriver en Varsovie pour aller m'occuper d'Olga puis de Micha, là. C'est excitant, là.
Mais quand on s'est parlé, tu m'as dit que tu étais épuisé parce que tu passais une partie de tes nuits soit angoissé, soit à les aider avec le décalage horaire. Là, tu es fatigué. Pourquoi?
La même chose. j'ai pas arrêté, vraiment. Là.
Ça n'a pas changé?
Non, ça n'a pas changé parce que je suis encore avec l'immigration là-bas. Je sais que l'entrevue a donné quelque chose quand même. Ça a quand même bougé des choses là-bas, là. Étrangement.
Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as vu comme amélioration?
Ben, écoute, tu te souviens qu'elle a attendu 14 heures, puis ils ont dit d'aller les ordinateurs pour s'inscrire, puis elle a reçu un appel 3 jours d'après.
Okay.
Ils ont dit, ben, écoute, on a une place, on va vous recevoir tout de suite. Fait qu'elle a dit, ouais, non, c'est quoi qui se passe? Alors, elle s'est rendue, j'ai envoyé la photo, justement.
OK.
Elle t'avait cherché. Et ils l'ont passé immédiatement, ils ont pris son passeport, puis ils l'ont envoyé tout de suite à Londres.
Good.
Et là, ils ont réenvoyé le passeport en Pologne. Le pourcentage, d'après moi, lundi, elle va le recevoir. Mais son visa, il est fait.
Fait que là, tu t'en vas en Pologne, mais qu'est-ce que tu espères accomplir en allant là-bas?
Ben écoute, premièrement, il faut que je trouve un appartement. Ça, c'est définitif. Il faut absolument que je trouve un appartement. Je suis encore à l'hôtel. J'en ai trouvé 2 ou 3 que je vais aller visiter. Là, je vais être placé à l'appartement. J'amène du linge parce qu'ils n'ont pas de linge.
Mm.
Ils lavent ce qu'ils ont dessus eux autres à tous les jours. Dans le bain, hein, sont à l'hôtel.
Oui.
Fait que là, j'ai trouvé un appartement, au moins, il va pas être installé. J'allais voir qu'une balise bien pleine d'inges, au moins, il va être correct.
Parce que, Fernando, faut rappeler aux gens qui nous écoutent que toi, comme ta conjointe a pas pu retirer suffisamment d'argent, là, tout le monde voulait retirer de l'argent quand elle a fui, ben, c'est toi qui payes l'hôtel à Varsovie, là. Fait que coûte cher.
Tu payes la bouffe, tu payes l'hôtel, tu payes tout, mais t'as pas le choix. Sinon, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils sont pris, là. Le peu d'argent qu'elle a sorti, ça s'est dépensé assez vite. Les premiers journées qui sont arrivés, c'est plein de requins. Fait que tout le monde en profite,
ouais,
de la situation.
Comment va son fils?
Lui, il est excité parce que je m'en viens, là. Il est vraiment, mais écoute, il saute partout, là. Il a hâte que j'arrive, là. Fait que là, j'ai emmené un chandail des Canadiens de Montréal, là. il a vraiment hâte que j'arrive, là. J'ai acheté des track shoes, là. J'ai acheté toutes sortes d'affaires, là. Il a hâte. Puis un autre Superman, c'est bien sûr, là. Il a pas de jouets, là. Fait que des capotes, là. Il a hâte que j'arrive.
Est-ce que d'être là-bas sur place, ça va aider à faire débloquer son dossier, tu penses?
Ben moi, je vais aller crier, tu me connais, hein, tu sais comment je suis. C'est sûr que je vais aller crier. Je vais aller faire la ligne, puis je vais y aller pour Micha. J'ai parlé avec un agent, je ne sais pas si tu as recherché, si tu l'as dit, mais écoute, Valérie, là, je la remercie encore, je l'embrasserai.
Ça, c'est une agente au téléphone qui a été d'une grande aide. Oui,
de Immigration Canada, qui m'a donné un coup de main là, hier, là, tu peux même pas t'imaginer, elle était sa ligne avec moi, 1h30. Elle a appelé à Londres, elle a checké pour le dossier de Micha. Le Micha, son dossier, il est en dessous d'une pile incroyable. Il y a du monde, écoute, des demandes, c'est fou.
Mm.
Puis ils ont dit non, ils ont retrouvé, écoute, ça fait un mois qu'on attend pour lui. Fait qu'ils ont mis la liste sur le top, puis ils m'ont dit que j'étais pour avoir des nouvelles d'un prochain jour. Alors, Laurent m'a dit, écoutez, vous louez un appartement? Elle a dit, je le sais, mais d'après moi, je vous donne peut-être une semaine ou deux, peut-être vous allez vous en revenir avec elle, là, et Micha. J'espère que oui.
Toi, tu t'en vas, Fernando, tu t'en vas pour Varsovie, puis est-ce que tu as un billet de retour?
Oui. Je ne sais pas si je vais revenir avec, là, mais oui, j'ai un billet de retour. Oui, oui. Mais j'ai dit, oh, le gars, il sait, là, je m'en vais à Varsovie, je vais rester avec eux autres, j'ai les places, mais moi, je vais quitter pour les lignes. Je m'en vais sur les lignes d'Ukraine et de la Pologne. Je m'en vais au ski de l'ONU, je vais aller voir ce qui se passe là-bas. Je vais aller voir les situations des autres Ukrainiens parce qu'elle a des amis qui sont là-bas, aux lignes.
Mm.
Alors, je vais aller voir ce qui se passe. Elle n'a pas vial, elle a peur, là, mais il n'y a pas de danger. Je mets du bord de la Pologne.
Fernando, prends
30 secondes.
Oui, bon, c'est sûr qu'on va se reparler. Prends 30 secondes, Fernando, pour expliquer aux gens qui nous écoutent comment, à Saint-Sauveur, où tu habites, l'école du quartier où tu as déjà inscrit Michel, le fils de ta conjointe, là, attend cet enfant-là à bras ouverts?
Écoute, j'ai reçu un courriel aujourd'hui. Ben, je leur ai écrit que je m'en allais là-bas. Je leur donne des nouvelles à tous les jours de ce qui se passe là-bas. L'école est décorée. Pat, l'école, elle est décorée des couleurs de l'Ukraine. Ils ont tout préparé, ils ont fait des tableaux. Ils connaissent les enfants, il y a des concours, ils connaissent toutes les villes de l'Ukraine. Ils connaissent la beauté de l'Ukraine, c'est tout en photo sur des affiches qu'ils ont mis dans les passages. Là, il y a un petit Ukrainien qui va arriver, qui est en sixième année la semaine prochaine, et ça va être le deuxième. Donc, Micha va être celui qui s'en vient, donc il va en avoir deux. Un en sixième année, puis un en troisième année. Et ils attendent Micha à bras ouverts. Ils sont tous prêts. Les étudiants, tout le monde, les élèves. Écoute, c'est... Oui, je capote. L'ampleur que ça a pris à Saint-Sauveur, c'est incroyable. J'ai beaucoup de commanditaires aussi qui se sont impliqués. Tu sais, j'ai du monde là, qui m'appelle. Docteur Riopel à Laval, écoute, c'est un fils. Il m'a donné de l'argent pour que j'envoie à Olga pour qu'elle puisse s'habiller avec Micha, qu'elle envoie de l'argent là-bas. Il veut couvrir les dentistes, toutes les dents à vie, gars. Il dit, même que ça vienne, je suis son commanditaire, ça leur coûte rien de dentiste. Mais tu sais comment ça coûte, là? Ouais. Écoute, j'ai d'autres commanditaires du monde qui m'appellent. Ils disent, écoute, on donne un coup de main, là, on sait qu'est-ce que tu fais, là. Mais moi, je m'en vais là-bas, mais je vais aider d'autres mondes, là. Je m'en vais vraiment aider d'autres cliniques. J'ai dit, oh, gars, je m'en viens là-bas, il y a des formules. Écoute, ma valise est pleine de formules de bisous. Je m'en vais faire le pape là-bas, là. C'est n'importe quoi.
OK, écoute.
Mais Valérie de l'Immigration Canada, écoute, je la remercie. Je sais pas combien de fois, là. Elle a fait un travail colossal. Puis si tout le monde sait comme elle, puis elle nous a entendus en onde il y a deux semaines. Donc, elle connaissait l'entrevue. Donc, c'est génial. T'sais. Elle dit, écoute, bien, fils de son âge, puis ouais, ça me fait quoi? Avec quasiment la larme aux yeux au téléphone.
Attends une seconde. Catherine, une question pour toi.
Je voulais savoir, Fernando, la dernière fois que vous êtes venu en studio, vous nous aviez confié que votre conjointe, Olga, avait perdu une de ses propriétés. On parlait de l'argent qu'elle n'a pas pu retirer. Est-ce que pour elle, c'est terminé? Genre, il n'y a plus d'argent ou un jour, elle va retrouver certaines ressources?
On ne sait pas encore. Elle a parlé avec sa compagnie pour qui elle travaille comme avocat. Puis là, ils ont ouvert un autre compte de banque parce qu'elle travaille quand même 3 à 4 heures par jour pour la même compagnie. Ils déposent pas au clair salaire. Mais ils vont le déposer dans une nouvelle banque qui appartient pas à la Russie. Ça, c'est définitif. Son argent, présentement, on ne sait pas ce qui va arriver avec. On n'a aucune idée. On sait que le condo, il n'y a plus rien à faire avec ça. Puis le deuxième, encore pire, il ne reste pas grand-chose. Son frère a été à Kiev. Il a vu l'édifice, il n'y a rien qui est récupérable, sauf qu'il a envoyé la photo de sa voiture qui est intacte. La voiture est correcte. Fait que là, lui, il va la tower, carrément, parce que la vie est revenue comme un peu normale à Kiev. Alors, il va tower sa voiture parce qu'elle va se faire tower automatiquement. Là. Il va la tower, il va la mettre dans un garage, puis elle va la mettre en vente. Là, parce que...
Ben, Fernando, on te souhaite un bon voyage. On va se reparler prochainement. Salutations à ta blonde et à son fils.
Ben écoute, je vous remercie. Je vous parle de la Pologne en direct.
Salut, à la prochaine.
Et merci, Pat.
On est au jour 50 aujourd'hui de l'agression russe en Ukraine. Et au début de cette agression, le 24 février, le Kremlin pensait être accueilli par des Ukrainiens en liesse, heureux d'être libérés. Poutine pensait prendre Kiev, la capitale, en 3 jours ou moins. Ben, l'histoire a démontré que ça ne s'est pas passé comme ça. On va parler de tout ça avec Guillaume Sauvé, qui est spécialiste de la Russie, politologue au Centre d'études et de recherche internationale, le CERIUM de l'Université de Montréal. Le professeur Sauvé, salut!
Oui, bonjour.
Donc, 50 jours aujourd'hui, qu'est-ce qui vous frappe quand vous regardez dans le rétroviseur?
Ben, comme vous l'avez dit, ça s'est pas du tout passé comme prévu. Et là, quand on dit comme prévu, c'est pas juste que, de toute évidence, les attentes de Poutine étaient fondées sur de fausses informations, mais il faut même se rappeler que les services de renseignement américains, qui avaient eu raison quand ils avaient dit que la guerre s'en venait, avaient eu tort quand ils ont annoncé que Kiev allait probablement tomber en quelques jours. Donc, de toute évidence, c'est pas juste en Russie qu'on s'était trompé sur d'abord les capacités de résistance des Ukrainiens et ensuite sur on avait sans doute un peu surestimé l'organisation de l'armée russe. Donc, clairement, un des grands objectifs de la bataille, mais c'était pas le seul et on va y revenir, mais un des grands objectifs de la guerre qui était la prise de Kiev puis la chute du régime. Et bien maintenant, de toute évidence, même la Russie reconnaît que c'est plus à l'ordre du jour parce que ça va pas marcher.
Qu'est-ce qui est à l'ordre du jour désormais? Le but, c'était de prendre le pays, de prendre le contrôle, ou en tout cas, prendre le contrôle à travers un changement de régime. Ça n'arrivera pas, en tout cas, pas comme on l'escomptait. Là, les objectifs de la Russie, 50 jours plus tard, c'est quoi?
Oui, alors c'était en fait, c'était l'autre grand objectif qui finalement a toujours été là, mais qui était un peu dans l'ombre de l'objectif de la prise de Kiev. Et ce premier autre objectif, c'était la conquête du Donbass. Et lui, en fait, il avait été annoncé même avant le début de l'invasion, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais donc 3 jours avant le 24 février, le 21 février, Poutine avait fait les manchettes en annonçant qu'il reconnaissait l'indépendance des deux républiques sécessionnistes du Donbass. Le Donbass étant cette région à l'est de l'Ukraine, où il y a donc deux républiques autoproclamées soutenues par la Russie. Et Poutine avait tout de suite précisé qu'il reconnaissait leur indépendance, non pas seulement dans le territoire qu'ils occupaient, mais dans le territoire qu'elle revendiquait, qui voulait dire donc la conquête de l'ensemble du Donbass. Et ça, on le savait même avant le 24 février. Et ça comprend notamment la ville de Mariupol.
Mais ça fait quand même quelques années que les Russes là, ont des visées sur ce territoire-là.
Oui, bien sûr, parce qu'en fait, il faut se rappeler que la guerre en Ukraine n'a pas commencé en février dernier. La guerre en Ukraine entre la Russie et l'Ukraine a commencé en 2014. Avec au moment d'une part de l'annexion de la Crimée, donc c'est fait sans combat, mais ensuite le début de la guerre dans le Donbass, justement, avec l'émergence de ces deux provinces sécessionnistes, dont l'existence n'est possible que parce qu'elles sont soutenues militairement par la Russie. Mais alors que la Russie, depuis 8 ans, semblait vouloir négocier le retour de ces provinces à l'intérieur de l'Ukraine pour mieux comme influencer l'Ukraine de l'intérieur, maintenant la Russie semble, depuis le 21 février dernier, pour leur reconnaître leur indépendance, pour les soutenir et les aider à conquérir l'ensemble du Donbass.
Est-ce qu'il y a un gagnant 50 jours après?
Ben, c'est vraiment difficile de parler de gagnant. La Russie n'est clairement pas gagnante parce que ses attentes sont déçues. Enfin, et là, quand je dis la Russie, il faut bien que je précise, là, le gouvernement de Vladimir Poutine, parce que la Russie comme pays elle-même, je pense, est perdante à peu près à tous les égards dans cette bataille-là. Mais le gouvernement de Vladimir Poutine peut difficilement être donné gagnant parce que la plupart des objectifs qui avaient été posés n'ont pas été atteints. Le gouvernement ukrainien, je veux dire, dans un sens, peut être gagnant dans la mesure où la Russie n'a pas atteint ses objectifs, mais étant donné les atrocités qui ont été commises sur son territoire, c'est vraiment difficile de parler de victoire. Hein? Et en plus, c'est loin d'être fini. Donc, pour l'instant, non, que des perdants dans cette guerre.
OK, je lisais dans un magazine américain, The Atlantic, là, c'est sorti il y a quelques jours. C'est une analyse d'un prof de relations internationales, Elliot Cohen, qui disait qu'on entre dans la quatrième phase de la guerre et dans le moment décisif de la guerre. Ce que sa thèse, c'est que le moment pour soutenir l'Ukraine, militairement notamment, là, c'est maintenant. Et que si on ne le fait pas là, l'Occident, on va payer un prix fort, beaucoup plus fort plus tard. Est-ce que c'est une analyse qui est partagée, ça?
Ben, je ne sais pas à quel point. Ça dépend un peu de ce qu'il entend, lui, par la phase décisive de la guerre. Il me semble que ça a comme toujours été important de défendre l'Ukraine autant au début qu'au milieu ou à la fin. Mais ce qu'il a en tête, j'ai pas lu l'article en question, mais qu'il a probablement en tête, parce que ça, c'est, je l'ai vu chez de nombreux analystes, c'est qu'effectivement, là, on est rendu dans une autre phase de la guerre qui va être plus localisée, moins, disons, répartie à travers tout le territoire. Les forces russes ont compris qu'à trop se disperser, il n'y arrive à rien. Et donc là, on assiste à une concentration des forces russes sur le Donbass, pour la conquête du Donbass. Donc, ça implique la prise de Mariupol, d'une part, et ça implique d'essayer de... Il y a deux percées là, qui sont tentées, l'une par le sud et l'autre par le nord, pour encercler les forces ukrainiennes qui défendent le reste du Donbass. Et en Russie, on parle beaucoup que Vladimir Poutine aimerait avoir une victoire décisive dans le Donbass avant la fête de la victoire, qui est un jour férié en Russie, le 9 mai. C'est sans doute l'objectif là, à court terme.
Et le 9 mai, c'est une date qui est historiquement, politiquement, symboliquement très importante.
Évidemment, puisque le 9 mai, en fait, qui est célébré le 8 mai ailleurs dans le monde, mais le 9 mai dans l'espace post-soviétique, c'est la victoire sur l'Allemagne nazie. Et puisque, comme vous le savez, toute la guerre contre l'Ukraine s'est faite au nom d'une sorte de combat un peu mythologique contre des nazis qui seraient au pouvoir en Ukraine, eh bien, évidemment, s'il pouvait y avoir une victoire dans le Donbass pour la Russie, et pouvoir l'annoncer le jour de la victoire contre le nazisme, de l'anniversaire de la victoire contre le nazisme, ça serait tout un symbole, oui.
À quel moment est-ce que Poutine pourrait déclarer une victoire dans son monde parallèle où il contrôle en Russie toute l'information?
Ben justement, je pense que s'il pouvait avoir une victoire dans le Donbass, c'est-à-dire conquérir l'ensemble du territoire revendiqué par la République sécessionniste, ça pourrait se présenter comme une victoire, puisque c'était l'un des objectifs annoncés. Officiellement, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il a annoncé qu'il allait faire la guerre pour protéger les Russes du Donbass d'un génocide, le mot était déjà mentionné, mais de l'autre côté, de l'autre camp politique, d'un génocide de la part du gouvernement ukrainien. Bon, c'était un peu fantastique. C'est en fait totalement fantastique comme accusation. Mais donc, puisque ça, il y avait comme objectif, s'il réussissait à l'atteindre, ça pourrait être considéré comme une victoire. Et là, on pourrait s'attendre peut-être, non pas à la paix, mais à quelque chose comme un cessez-le-feu.
Donc, une tension permanente entre les deux pays, une fin des hostilités, ça pourrait finir comme ça.
Ouais, ben, fin des hostilités, ça serait même un grand mot. Je pense que ce serait quelque chose comme un retour à la situation qu'on avait avant février, c'est-à-dire la guerre. Il y avait déjà la guerre en Ukraine, mais avec un front plutôt stabilisé. Ça, c'est un scénario optimiste. Et ça présume que la Russie réussirait à conquérir le Donbass, ce qui n'est pas dit.
OK. Qu'est-ce qui arrivera? Qu'est-ce qui attend la Russie dans les prochaines années? Parce que là, il y a des sanctions, il y a des débats sur l'efficacité des sanctions, mais clairement, la Russie va être un pays très changé si on compare avant le 24 février. Qu'est-ce que ça annonce pour le monde?
Pour le monde entier ou pour la Russie? Pour le monde entier, il y a beaucoup de choses que ça change, en fait. Hein. Y a comme ça part dans toutes les directions. On peut mentionner, par exemple, le renforcement de l'OTAN en Europe, qui est comme une conséquence clairement non planifiée de la part de Vladimir Poutine. En fait, lui, son but, c'était de freiner l'OTAN. Au contraire, ça va stimuler l'importance de l'OTAN. On parle de la Suède qui rejoindrait l'OTAN, peut-être la Finlande. Donc, un renforcement de l'OTAN, une plus grande unanimité, même en Europe, ce qui est assez rare, là, au sein de l'Union européenne, dans un front anti-russe. Donc ça sera un changement important. Ça pourrait, dans un sens même, affaiblir la Chine, parce que la Chine verrait un de ses principaux alliés grandement affaibli, donc la Russie. Il y a toutes sortes de modifications. On parle aussi, par exemple, ça pourrait accélérer la transition énergétique en Europe vers des énergies renouvelables, parce que maintenant, il y a un incitatif de plus à se retirer, par exemple, des approvisionnements en gaz naturel. Mais tout ça, c'est évidemment, on est dans le long terme. On est comme dans la projection, dans les transformations des rapports de force, principalement en Europe, évidemment.
C'est vraiment intéressant. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Ça me fait plaisir.
À la prochaine. C'était Guillaume Sauvé, spécialiste de la Russie, politologue au CERIUM, le Centre de recherche internationale de l'Université de Montréal.
Patrick Lagacé, en accéléré.
Mesdames et messieurs, le prochain segment est à prendre avec un grain de sel. Oui, il y a 110 ans, ça c'est vrai, le Titanic coulait. Et dans le naufrage du Titanic, un homme admirable au destin fauché beaucoup trop tôt quittait cette terre. On en parle avec Philippe Audrey, la rue Saint-Jacques, qui est un érudit autodidacte de la tragédie du Titanic. Qui est d'habitude là aussi là, très versé dans les affaires monarchiques, vous le savez. Mais il a de multiples talents, notre ami Philippe Audrey. Salut Philippe Audrey!
Allô, Patrick, merci de cette belle introduction. Je me sens justement comme Jack, là, en ce moment, ben, avec Céline.
C'est ça, tu sais, Jack Dawson est mort dans le naufrage du Titanic. D'abord, rappelle-nous qui il était.
Jack Dawson, c'est un être humain parfait, Jack Dawson. C'est un genre de bohème avant le temps, un peintre sensible qui faisait les portraits des prostituées à Paris. Puis là, il y a comme un ami qui sert à rien dans le film. Il joue au poker, il gagne un billet pour aller sur le Titanic. Et là, son destin change parce qu'il retourne en Amérique. Et là, il rencontre une jeune aristocrate, Rose. Et il la change, il la transforme. Il lui montre c'est quoi la liberté. Il lui montre c'est quoi prendre parole dans la vie. Il la sauve du naufrage. il n'est pas capable de s'affirmer au point de mettre ses pieds sur la porte qui avait clairement deux places.
Non, attends, il a raison. Philippe Audrey, les historiens, j'ai lu des analyses très poussées là-dessus, les historiens sont divisés à savoir s'il y avait de la place sur cette porte débris là pour deux personnes. C'est pas clair.
Il y avait de la place, Patrick. J'ai écouté un excellent documentaire qui s'appelle... comment ça s'appelait, là? Les gars qui font des tests là avec n'importe quoi.
Mythbusters, je l'ai vu aussi.
Ouais. Puis ils ont trouvé 8 façons d'être deux sur cette porte-là.
C'est incroyable.
Tu me fais croire qu'il y a un gars qui est capable de survivre au naufrage du siècle, il n'est pas capable de voir qu'il y a deux places sur
la porte. Semble-t-il que Jack avait une jambe plus lourde que l'autre et que ça aurait pu déséquilibrer la porte.
Ouais, mais le vrai amour de Kay, de Rose, c'est-à-dire, aurait pu trouver une façon avec les ceintures. Premièrement, elle aurait pu y laisser sa ceinture de sécurité. C'est lui qui est dans l'eau, c'est pas elle. Puis là,
attends une seconde, Philippe Audrey. Tu connais Jack aussi bien que n'importe qui, là. Est-ce que tu crois qu'il aurait... Penses-tu qu'il aurait accepté que Rose se déleste de sa ceinture de sauvetage?
Non, mais c'est là où tu vois la grandeur d'âme de Jack, en fait. Ce personnage exceptionnel. Là, on est en train de parler d'un gars qui a jamais existé.
Non, attends, il y a deux choses, Philippe Audrey. Un, toi qui es un gentleman, je pensais que tu allais vanter le fait qu'un homme donne sa vie pour une femme. Première chose. Oui. Et deuxième chose, il y eut un Jack Dawson qui est enterré à Halifax. Mais on voit pas de corrélation entre sa vie et celle de Leonardo DiCaprio. Même aucune.
Non, en fait, c'était un gars qui travaillait apparemment dans la fournaise, fait que c'est pas. Il paraît que c'est vraiment un genre de hasard que ça soit arrivé. Mais effectivement, je suis pour la chevalerie, mais je suis aussi pour que Rose ait la sensibilité de sauver l'homme qui a permis de vivre sa vraie vie aussi.
Mais de rien. Philippe Audrey, est-ce que tu trouves pas comme moi que c'est toujours intriguant et triste de se mettre à spéculer sur ce que serait devenu Jack Dawson? Est-ce qu'il serait devenu aviateur, investisseur à Wall Street, acteur à Hollywood ou peut-être même un escroc au cœur d'or échappe à la police?
Et serait-il encore en couple avec Rose? Probablement pas.
Ben, moi, je suis sûr que non, parce que reste qu'on oublie ça, mais Jack, l'histoire de Titanic, ça dure 3 jours, hein, globalement. Là. Ouais. Fait que là, lui, au bout de 3 jours, il est capable de diagnostiquer le fait qu'elle n'est pas heureuse avec son mari, puis tout ça, puis ça a quand même les attributs d'une relation potentiellement très toxique, là, ce qui s'en vient.
Tu penses?
Peut-être que ça finit au bon moment, finalement. Ah, non, mais c'est sûr, là. Lui, il l'envoûte, puis tu vas me faire croire que je veux bien qu'elle soit pas heureuse avec son mari milliardaire. N'empêche qu'il aurait payé les dettes de la famille, ce qui n'était pas une mauvaise chose. Puis après ça, il l'amène danser, puis c'est ça qui l'éveille. Moi, je pense que Rose était fragile, elle était dans un état de fragilité, puis Jack en a profité.
Il l'a dessiné nu, comme ça. Pour l'époque, c'est hein?
Ben, plus que ça, il l'amène dans une auto, dans un bateau, pour l'époque et pour aujourd'hui, c'est quand même quelque chose. Fait que, je veux dire, il y a quelque chose de pas sain dans leur relation à la base. Jack est quand même contrôlant, puis Rose est très soumise à lui, fait que, il court tous les dangers. Fait qu'il y avait quelque chose que je pense que ça n'aurait pas duré, puis que c'était correct qu'il finisse comme ça, en fait.
Mais il a quand même sauvé la vie, parce qu'elle allait se jeter en bas
trois fois plutôt qu'une, en fait. La première fois, quand elle veut se lancer après le fameux souper de l'agneau, où elle mange de l'agneau et tout ça. La deuxième fois, au naufrage, puis la troisième fois, en lui faisant adopter son nom quand elle arrive à New York, puis qu'elle est un peu plus anonyme, puis elle peut vivre. Fait que Jack, dans 3 jours, a sauvé 3 fois la vie d'une même fille. C'est quand même très bon, je trouve, comme statistique, sincèrement. Une bonne action, c'est bon, mais là, 3, c'est quand même pas si mal.
Il lui a donné des ailes aussi, parce que il lui a donné le goût de vivre par la suite.
Oui, c'est vrai.
On remarque qu'elle elle pilote un avion, elle fait du cheval, toutes des choses que les femmes faisaient pas à l'époque.
Exactement, elle devient actrice, puis elle s'émancipe, en fait, puis c'est quand même ça la morale de Titanic, hein. Quand même, là, c'est l'idée que faut un peu se décarcaner de notre carcan, justement. À la fois Jack le fait en allant en première classe et à la fois Rose le fait en rencontrant Jack. Fait que c'est ça la grande morale de ce film-là.
Trouves-tu que ce film-là, c'est ce documentaire Titanic,
documentaire, c'est le bon mot.
C'est une critique sociale sur les relations entre les classes?
Je pense que non.
C'est subtil.
Mais en fait, oui. Oui, mais non. Mais oui, c'est très subtil. Mais c'est vrai que c'est pour beaucoup, en tout cas, qui ont vu ça en 80... C'est sorti en 97, mais beaucoup l'ont vu en 98. C'était pas mal une des premières fois qu'on était confronté au concept d'inégalité flagrante des classes où les gens de troisième classe, pour vrai, dans la vraie vie, il y en a 75% des gens de la troisième classe qui sont décédés dans le naufrage, alors que la première classe a survécu à peu près à 62%. Fait que déjà, c'était un problème. Puis, le truc, c'est que le naufrage du Titanic est quand même un vrai événement historique important. Et ça, c'est quand même mal exploité parce que c'est un naufrage qui je trouve que le film, mais que l'histoire le porte mieux, c'est que on se croyait au-dessus des éléments puis de la nature, puis finalement, on l'est moins qu'on le pensait. Puis
On peut y voir une sorte d'allégorie du réchauffement climatique.
Ben peut-être, en fait, parce que c'est une confiance totale en le Titanic, en fait, c'est une confiance totale en la technologie. C'est un bateau non seulement très, très luxueux, mais aussi c'est un bateau qui était à la fine pointe parce qu'il y avait le télégraphe, fait qu'on se disait, bon, ben si on a un problème, les bateaux pourront venir. Problème, il y avait les bateaux les plus proches du Titanic qui étaient à 4 heures. C'est un bateau très puissant. Le fait est qu'il allait trop vite quand il a frappé l'iceberg. C'est entre autres pour ça qu'il n'a pas été capable de tourner assez, de virer assez vite. Puis comme il était bien fait, il n'y a pas eu énormément de vibrations, fait qu'il n'y a pas eu de panique tant que ça dans le bateau, ce qui a ralenti l'évacuation des passagers. Ce qui fait en sorte que la technologie a vraiment, qui était comme un peu ce qui servait à vanter le Titanic, a desservi finalement le Titanic dans la catastrophe.
C'est bien de le rappeler. Merci. Je pense que le souvenir de la mémoire de Jack Dawson ne mourra jamais, Philippe Audry. Merci beaucoup.
Merci de la remémorer avec moi. Ça me fait très plaisir. Je me sens moins seul.
Rendez-vous pour le 120e dans 10 ans.
OK, je serai là, c'est sûr et certain.
Évidemment, rigueur, 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 Jack Dawson est un personnage fictif du film Titanic, je le rappelle. C'est jeudi de Pâques, on a le droit de s'amuser. OK, on le connaît parce que c'est un athlète et un être humain très intéressant, le footballeur. Laurent Duvernay-Tardif évolue dans la NFL et fait notre grande fierté au Québec. Mais là, il arrive avec une série documentaire où il se pose des questions et ça s'intitule « J'ai une question ». On va en écouter un extrait.
Moi, je suis quelqu'un de curieux. Puis l'affaire, c'est que quand je me pose une question, il faut que je trouve des réponses. C'est une obsession.
Est-ce que j'en ai besoin?
Ça se traduit comment exactement?
C'est quoi le lien entre les deux? Où est-ce que tu te positionnes?
Est-ce que c'est possible?
Est-ce qu'il y a des tests encore plus précis?
Est-ce que c'est fâchant? Est-ce que vous avez toujours vu ça? C'est quoi que ça représente?
Il est au bout du fil. Salut, Laurent!
Salut, salut, j'écoute mon extrait puis je me trouve un peu TDAH.
As-tu toujours été comme ça?
Ah, vraiment, vraiment, vraiment. Puis, en fait, ce projet-là est né un peu de peut-être mon isolation pandémique, dans le sens où je me posais plein de questions, puis il y avait des enjeux, je trouvais, sociétaux auxquels on faisait face, outre la pandémie. Puis, j'ai travaillé sur ce projet-là pendant un an, puis là, on a sorti les quatre épisodes d'une heure, sur différents sujets. On parle d'obésité, on parle de dopage, de technologie dans le monde du sport, puis aussi d'autosuffisance alimentaire, puis dans un contexte post-pandémique, les chaînes d'approvisionnement, tout ça. Puis j'ai toujours été un gars qui a 1 million de questions. Puis on dirait que là, j'avais un gros terrain de jeu pour y répondre. On est allé à la rencontre d'un paquet de monde. Puis ça a vraiment été une belle expérience. Je suis vraiment fier de ce projet-là, en fait.
Il y a 4 thèmes et que je vais résumer. Là. D'abord, ton domaine, le sport. Pas ton domaine, le dopage. Ça, c'est dans le même thème. Ça veut dire quoi, être obèse? Et troisièmement, jusqu'où la technologie va repousser les limites du corps humain? Quatrièmement, l'autonomie alimentaire du Québec. Écoute, tu t'en vas dans toutes les directions. Comment vous en êtes venu à isoler, choisir 4 sujets comme ça?
Ah, ça a été difficile, en fait, parce que moi, je voulais faire 10 épisodes. Là, je voulais faire sur la robotique, les pêcheries en haute mer. Mais on a décidé de cerner les sujets qui étaient, tu sais, qui se rattachaient de près ou de loin à moi. Puis évidemment, ben, l'obésité, il y a un côté médical, mais il y a aussi un côté social. Il y a aussi un certain stigma, puis aussi le fait que moi, en tant qu'athlète professionnel, où est-ce que je me classe dans tout ça? Tu sais, je fais quand même 320 livres. Fait qu'on a essayé de partir d'anecdotes, de morceaux de ma vie, puis essayer de pousser les réflexions plus au niveau macro, d'aller rencontrer les intervenants. Fait que c'est comme ça qu'on est arrivé à choisir ces 4 sujets-là. Puis, en tout cas, moi, j'aurais pu... On rencontre environ 15 de personnes par documentaire d'une heure. On approfondit la question sous plein d'angles. Puis, tu sais, si je prends l'exemple de l'obésité, c'est tellement un sujet tabou. En fait, on en parle tout le temps, mais on n'en parle jamais en même temps. Puis, tu Oui, il y a des conditions médicales associées à l'obésité, mais on devrait jamais stigmatiser les gens parce qu'ils sont obèses. Puis en tout cas, ça m'a amené plein de pistes de réponses. Puis ce qui est le fun, c'est que peu importe le documentaire, tu finis avec encore plus de questions que quand tu as commencé. Puis moi, je trouve toujours que c'est bon signe.
Laurent, je voulais savoir, on parle de drogue et de sport, on parle de stéroïdes. J'ai vu une partie de cette émission-là, puis je me demandais jusqu'à quel point ça a peut-être été confrontant pour toi de parler de drogue et de sport, parce que c'est probablement ce qui est le plus près de toi.
Écoutez, ça a coupé pendant un court instant, mais on parlait de stéroïdes, en fait.
Oui, c'est ça, c'est exactement ce que j'ai dit, de stéroïdes. Donc, j'ai dit, jusqu'à quel point ça peut être confrontant pour un athlète comme toi, de parler de sport et de stéroïdes et de drogue?
Mais en fait, c'est tellement intéressant parce que c'est quelque chose qu'on côtoie, mais encore une fois, qui est tabou, puis qui est tellement différent en fonction du sport que tu pratiques. On va à la rencontre de culturistes où est-ce qu'il y a des catégories où est-ce que c'est permis de se doper ou qu'on dit libre, ou puis il y en a d'autres qui sont réglementés, alors que dans le sport amateur, dans le sport au niveau olympique, dans le sport professionnel comme celui que je pratique, c'est extrêmement difficile de penser pouvoir se doper. Tu sais, moi, je suis un petit peu naïf dans la vie, puis j'ai jamais compris comment tu pouvais réussir à te doper, piger dans la NFL avec la quantité de tests qu'on fait. Moi, je travaillais à l'hôpital général de Montréal, puis on venait me tester pendant la saison morte à 6 heures le matin, complètement de façon anonyme, surprise. Je vois pas comme. Puis malgré ça, il y a des gens qui testent positif, puis de se poser la question. Dans le sport, on permet pas le dopage, mais dans la société en général, qu'est-ce qu'on encourage avec cette pression-là à toujours performer plus, produire plus dans le monde du travail? Et puis, pour un athlète, ben, son sport, c'est son travail. Fait, et où la limite? Puis, la créatine, ça se place où là-dedans? Il y a tellement de substances qui sont dopantes, mais qui sont légales. T'sais, on pense à la caféine, c'est probablement la substance la plus consommée, mais qui a une preuve scientifique qui peut augmenter les performances sportives, mais c'est 100% légal. Fait qu'il y a où la ligne? Quand est-ce qu'une substance devient dopante? Parce que je pourrais continuer longtemps, oui. C'est fascinant. Puis on est allé à la rencontre aussi d'athlètes qui se sont dopés ou qui ont été forcés de se doper. On pense à Geneviève Janson. Fait vraiment des rencontres fascinantes. Puis on commence. Je trouve qu'on sort de cette émission-là, de ce documentaire-là, en mettant moins le blâme seulement sur l'athlète, puis en faisant un peu un état de la situation, puis on se rend compte que c'est vraiment un contexte sociétal dans lequel on est, où est-ce qu'on veut performer à tout prix aussi.
Un des cas les plus célèbres de dopage au Québec en sport, c'est justement le cas de la cycliste Geneviève Janson, qui était une grande championne. Beaucoup, beaucoup de spéculation avant qu'elle se fasse prendre. Finalement, elle a été prise pour dopage. Tu l'as rencontrée. Quand tu es sorti de ta rencontre avec elle, qu'est-ce qui dominait tes impressions?
Ça a été la rencontre avec Geneviève, ça a vraiment été un point tournant dans ma quête de cette question-là. Parce que je suis rentré en me disant, c'est une tricheuse, il n'y a pas d'excuse. Quand on se dope, on se dope. Puis là, tu apprends à travers l'entrevue que c'est arrivé quand elle était mineure, il y avait beaucoup, beaucoup de pression au niveau de ses entraîneurs, peut-être même l'abus psychologique, elle était laissée elle-même dans un monde complètement fou. Là, tu sors de là et tu te dis, ah, ben, pauvre elle, tu sais, c'est peut-être elle la victime au bout du compte, puis peut-être pas aussi, mais encore une fois, je sors avec plus de questions que, on dirait que tous les intervenants que j'ai rencontrés m'ont amené à voir les deux côtés de la médaille, peu importe le sujet.
Il y a, je veux te faire écouter un extrait. C'est ta blonde qui parle dans la série.
Ah non, faites-moi pas ça.
Être en couple avec Laurent, c'est être prêt à arrêter sur le bord de la route, prendre des légumes dans un petit kiosque maraîcher, puis là, se ramasser une heure plus tard encore dans les serres avec la madame qui nous explique les plantations, les systèmes hydroponiques. C'est aller en Gaspésie, essayer d'acheter des fruits de mer, peu importe le fruit de mer, mais particulièrement les crevettes. Et à chaque petit stand de poissonnier, Laurent demande « Est-ce que, s'il vous plaît, je pourrais faire une visite de l'usine? » Puis c'est bien sûr, c'est impossible pour des mesures sanitaires. Puis on se tape les vidéos d'interprétation de la crevette qui ont été faites dans les années 90 deux fois parce qu'il n'a pas bien compris comment on enlève les écales sur la crevette. Dans la vie de tous les jours, à Montréal, c'est aller au restaurant et se faire réciter le menu. Des fois même, je limite Laurent à deux questions maximum à la serveuse, s'il te plaît. Ça peut se rendre des fois jusqu'à se ramasser en cuisine avec le serveur et les cuisiniers se faire expliquer comment on fait un fond de sauce, comme Laurent qui coupe des légumes. C'est interminable, c'est ça.
C'est une sainte?
Je suis épuisée.
Réaction?
Ah, mais je l'aime de tout cœur, mais je pense que ça, c'est exactement ça. Je vois un chevreuil sauter sur le bord de la route, puis je fais pas, oh my god, je vais peut-être le frapper. Je pense au vecteur de force de sa patte en arrière, je me demande comment il a fait pour sauter si haut que ça. Puis, je sais pas pourquoi je pense comme ça dans la vie, mais on dirait que j'avais envie de le mettre au. De le mettre au grand jour, ce côté-là de ma personnalité. Puis je me suis dit, faisons-le avec un projet intelligent. Puis tu sais, c'est quand même, il y a beaucoup de substance dans les, oui, dans les heures de documentaire qu'on fait, mais c'est tellement important. Tu sais, je trouve que je vais pas porter de jugement, mais la télévision, des fois, c'est beaucoup dans le divertissement. Mm-hmm. Puis je pense que je voulais faire un projet qui était éducatif, qu'on se posait des vraies questions, qu'on apprenait, puis qu'on apprenait aussi à se respecter. Puis tu sais, je reviens encore sur le sujet de l'obésité, c'est de rencontrer des gens qui sont passés par dans des processus de d'intimidation, mais aussi d'acceptation de leur corps, d'autres qui ont passé par des chirurgies bariatriques. On se rend pas compte des fois des actions qu'on pose, à quel point ça peut avoir des impacts chez les gens. Puis l'obésité, c'est probablement la plus grosse épidémie, voire même pandémie, à laquelle on fait face au 21e siècle. C'est la COVID, oui, on en parle énormément, mais ce qui tue les gens en 2022, c'est l'obésité qui est reliée à l'hypertension, au diabète, etc. Fait que c'est comme de, en tout cas, moi, je suis tout le temps partagé par rapport à ça. Puis je me suis dit qu'il fallait en parler, puis on n'en parle pas assez souvent, puis on n'en parle pas assez en profondeur, je trouvais. Puis, tu sais, j'essayais de rester impartial, puis de pas trop amener mes opinions de médecin là-dedans. Puis, je trouve que ça donne quand même un on voit les deux côtés de la médaille, puis c'est ça qui est important. Il faut apprendre en tant que société, je pense, à discuter ensemble, puis à avoir des prises d'opposition, de agree to disagree. Puis c'est ça que j'ai essayé de recréer dans ce documentaire-là.
Est-ce qu'il va y avoir une saison 2?
Pardon?
Est-ce qu'il va y avoir une saison 2?
À vous de me le dire, si vous l'écoutez en grand nombre, ça va me faire plaisir. J'ai 1 million de sujets sur lesquels j'aimerais me pencher.
Ça devrait s'appeler « J'ai des questions » et non « J'ai une question ».
On en a des questions.
Hey Laurent, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je rappelle que la série documentaire est sur Crave. Ça s'intitule « J'ai une question ». Productrice au contenu Rose Automne T. Morin. Et le réalisateur est Frédéric Nassif. Merci beaucoup. Bon week-end de Pâques, Laurent.
Ben merci, ça va aussi sortir sur Canal D dans les prochains jours. Fait, manquez pas ça. Merci infiniment de m'avoir écouté. J'ai beaucoup parlé, mais c'est toujours un plaisir.
Puis salutations à ta blonde qui a beaucoup, beaucoup de patience pour son chum très curieux.
Bonne
Patrick Lagacé en accéléré.
Pour les plus chanceux, le week-end de Pâques, ça commence demain. Et on a fait appel à notre collaboratrice Maman 24/7, Maude Goyer, pour quelques suggestions familiales. On va la rejoindre en Floride où elle profite de quelques jours de vacances. Salut Maude!
Hey, salut Pat!
Avant de parler d'activité, est-ce que tu racontes aux gens à quel point ça a été facile ou pas de partir en famille aux États-Unis?
Hey, écoute, Patrick, des informations contradictoires, là, ça venait de partout. J'ai parlé à des journalistes spécialisés voyages, j'ai parlé à des voisins, des connaissances, j'ai fait des recherches sur le web, j'ai trouvé des articles de journaux pas nécessairement mis à jour. Alors, je veux juste dire, faites attention quand vous partez, parce que c'est pas clair. Il n'y a pas une porte d'entrée où est-ce qu'on aurait toutes les informations claires, concises, mises à jour, selon trois choses, selon la destination, selon le statut vaccinal ou selon tu y vas en auto ou en avion. Là, je parle des États-Unis, par exemple. Donc, c'est vraiment compliqué. C'est un dédale. C'est des pages, des labyrinthes de pages web sur le site du gouvernement du Canada. Pat, c'est plus ou moins périmé. Ça dit tout et son contraire. Donc, moi, j'ai trouvé en ce moment, en ligne, sur la page du gouvernement du Canada, ça dit que c'est pas nécessaire d'obtenir un résultat de test de dépistage de la COVID-19 pour monter à bord d'un avion ou d'un train au Canada. Mais ça, ce qu'ils veulent dire là-dedans, c'est si tu restes au Canada, mais la façon que c'est formulé, c'est pas clair. Ça prend un test avec un résultat négatif pour venir aux États-Unis en avion, sachez-le.
OK, donc toi, tu as été chercher ton test négatif PCR, c'est ça?
Oui, mais je suis pas allée le chercher, je l'ai fait chez moi, en ligne, en visioconférence avec une infirmière ou en tout cas une coordonnatrice qui te regarde le faire, qui authentifie, qui t'envoie un rapport. Ça coûte 30 $. J'ai trouvé ça formidable. On est occupé, on n'avait pas beaucoup de temps. Tu fais ça 24 heures à l'avance. Moi, j'ai vraiment très apprécié. Donc, c'est 30 $ par personne. Il y a plusieurs entreprises qui le font.
Ça vaut la peine? Il fait chaud, il fait beau?
Ah, écoute, j'ai encore du sable en ce moment entre les orteils. Il fait 30 degrés. Le ciel est bleu. Les palmiers sont magnifiques et on a vu un très beau lever de soleil à 7 heures ce matin. Bon,
fantastique. Maintenant, cesse de nous faire suer et parle-nous de Pâques. Écoute, quand je pense à Pâques, je pense à ces années où mon fils était jeune. Puis, écoute, vraiment une activité incroyable, aller visiter une mini-ferme pour voir des animaux de Pâques. Ça, c'est le fun.
Hey, parlons-en. Pat, les mini-fermes de Pâques, moi, j'haïs ça.
Mais voyons donc.
Toujours haïs. Tu trouves pas qu'il y a quelque chose de complètement archaïque, erroné, même anachronique, d'aller magasiner des bottes de pluie en imperméable, puis en passant, tu vas flatter un mouton? C'est complètement ridicule. Ça marche comme pas. C'est, le centre commercial, c'est pas fait pour ça. Puis en plus, les animaux-là sont entassés. Ça pue. Ils ont l'air punis, ils n'ont pas l'air heureux. Souvent, ils sont amorphes.
On sait pas.
Les enfants autour, ça crie, ça court, ça se bouscule devant eux. Moi, je déteste ça. Puis depuis quelques années, c'est de moins en moins populaire. En 2020, par exemple, Cominard, là, qui gère 18 centres commerciaux partout au Québec, ils ont cessé de présenter des mini-fermes. Puis moi, je suis 100% d'accord avec ça.
Ben, en tout cas, OK, regarde, on n'est pas d'accord là-dessus, mais on est d'accord sur le fait que, à part que c'est le bon moment pour adopter un animal un peu exotique, là.
Encore pire! Adoptez pas de lapin. Faites pas ça. OK? Je vais te raconter quelque chose. J'ai parlé avec les gens de la SPCA. Les abandons.
Ben oui, mais lapins, là, les gens de la SPCA.
Ça a doublé. Mais non, mais pas. Faut gérer ça, là. Du 1er janvier au 12 avril, juste te donner une idée. Oui. Ça a presque doublé. Donc, de 36 du 1er janvier au 12 avril en 2020, on est rendu à 66 maintenant en 2022, des abandons de lapins. Un lapin, là, il appelle ça le syndrome du lapin de Pâques. Un lapin, ça vit entre 8 et 12 ans. C'est un animal qui est nerveux, c'est une proie. Donc, faut pas le laisser en cage. Il a besoin de liberté et de calme. C'est pas approprié pour un enfant qui va crier et courir autour. Donc, ça fonctionne pas vraiment. Puis, un animal que ses besoins sont pas comblés, ben, il va développer des comportements compensatoires et souvent inadéquats. Fait que, allô, le grugeage de sofa.
Et il va falloir y donner du Prozac.
Oui, c'est ça. Exactement. Puis sais-tu, Pat, ça coûte 1 000 $, hein, à peu près chaque année, par année, d'avoir un lapin. Fait que pensez-y, là. C'est le foin, les granules, la verdure, les rendez-vous, etc. C'est 1 000 $. C'est un gros investissement. Fait qu'en général, là, les gens qui achètent un lapin à Pâques pour bien faire, ils l'abandonnent après 3-4 mois. Fait que faites pas ça. C'est pas une bonne idée. Puis les gens qui disent, je veux que mon enfant prenne ses responsabilités, on va faire ça ensemble, c'est pas une bonne idée parce que c'est l'animal qui va en souffrir. C'est une responsabilité en famille, puis les enfants peuvent faire quelques tâches. Mais faites pas ça. Achetez du chocolat, puis j'ai plein d'autres idées, si vous en oubliez. Il y en a plein de choses qu'on peut faire à part qu'en famille.
Attends, il y a Catherine Beauchamp qui me montre une photo de lapin.
Non, c'est que une de nos recherchistes, Alexandra Pouliot,
oui,
a son lapin, et là, elle vient de me texter, mais elle, ça se passe assez bien. Je lui ai demandé, le lapin est en liberté, il va faire ses besoins dans sa litière. Ça fonctionne vraiment bien avec la famille.
Oui, puis j'ai une amie qui en a un aussi depuis maintenant 3-4 ans, Léon, puis ça va super bien aussi. Donc, ça se peut, ça existe, mais pensez pas que c'est facile. C'est comme adopter un chat ou un chien. C'est pas banal. C'est une grosse décision. Puis les gens, le problème, c'est que les gens se sont beaucoup lancés sur l'adoption de lapins parce que les prix pour les chiens et les chats ont explosé et il y en a moins depuis la pandémie. On sait qu'il y a eu beaucoup d'adoptions. Donc, faites attention.
OK, pensez-y
bien.
Pas de mini-ferme, pas d'adoption de lapins. Donc, on fait quoi à Pâques dans la maison de maman 24/7?
Ben, on fait des chasses au trésor. Moi, je dois te dire que, Patrick, que quand j'étais petite, mon père préparait une chasse au trésor d'indices, là. Un indice qui mène à un autre, qui mène à un autre. Fait que là, ça prend de la patience, de la persévérance, de la curiosité, de la débrouillardise. Puis finalement, à la fin, on a une coupe de petits en chocolat et on est très contents. Mais c'est l'activité qui est le fun. Fait que j'ai sondé ma communauté, là, sur les réseaux sociaux. Puis les gens, de façon surprenante, fêtent beaucoup, soulignent beaucoup Pâques et font beaucoup des chasses au trésor. Si vous n'avez pas le temps puis que vous écoutez ma chronique en ce moment, sur le site de Chocolat Favori, formidable, il y a des chasses au trésor toutes faites. On a juste imprimé les indices, les cachés. Bon. Donc, Chocolat Favori, il y en a pour les 7 à 12 ans, puis il y en a pour les 13 ans et plus. Ça peut être le fun aussi. Puis vous avez la version 2021 et 2022. Ben, vous pouvez tout aller piger vos idées-là.
Bon,
puis sinon, ben cueillette de tulipes, cabane à sucre, il y a plein d'affaires. L'heure du compte à la bibliothèque, des coloriages thématiques, des films, un bon box bunny, là. pour les 5 ans et plus, s'approprier un Zootopia pour 8 ans et
Jésus,
plus.
Jésus, c'est un bon choix pour la famille.
C'est de moins en moins. J'ai une maman qui me disait qu'elle avait transformé Pâques, qui est une fête religieuse, puis on s'entend qu'on ne souligne plus vraiment ça pour ça, en fête culturelle. Donc, elle, c'est beaucoup des livres qu'elle achète à chaque année à ses enfants. C'est une autre bonne idée. Il y en a qui me disent qu'ils cuisinent des gâteaux aux carottes parce que les enfants n'aiment pas le chocolat. Hein? C'est une autre bonne idée.
Hey Maud, faut que je te coupe. Je suis déjà rendu à la fin de la chronique sport de Jérémy.
All right. Merci,
bon séjour en Floride. Bye.
Merci, bye.
C'est Maud Goyer.
Patrick Lagacé en accéléré.
C'est 23.